La Société des Compagnons pour l'Évangile présente la Confession de foi de La Rochelle par le pasteur Pierre Courtial, cours pour laïcs donné par le Centre de formation chrétienne à la Faculté de théologie protestante de Paris.
Avec les articles de la Confession de foi concernant l'Église, nous abordons un terrain où le sol est peut-être moins assuré que dans tout ce que la confession de foi a dit auparavant. Autrement dit, nous arrivons avec l'Église sur un terrain difficile, sur un terrain mouvant, et cela tient à la situation historique du XVIe siècle. Et cela continue d'ailleurs, car la situation historique du XVIe siècle a été suivie par des situations qui n'ont, en la matière, rien amélioré. Pour exprimer ma pensée sur ce point, je dirais que le mouvement de la Réformation entendait, voulait être une réformation de l'Église, une reformation de l'Église. Bien souvent, nous oublions cela. Nous voyons bien que la Réforme a annoncé l'évangile du salut par grâce en Jésus-Christ, par le moyen de la foi. Nous voyons bien que la Réforme a invoqué l'autorité de la parole de Dieu. Mais bien souvent, nous oublions ou nous négligeons ce fait capital que le mouvement de la Réforme a voulu être une reformation de l'Église. Et si beaucoup de protestants et beaucoup de non-protestants oublient cette caractéristique de la Réforme, à savoir qu'elle a voulu être un mouvement de reformation de l'Église, c'est parce que sur ce point précis, dans un grand nombre de pays, et même d'une certaine manière, nous le verrons tout à l'heure, partout, dans tous les pays, la Réformation a échoué. La Réformation a réussi à annoncer à nouveau l'évangile de la grâce. La Réformation a réussi en attestant avec force l'autorité de la parole de Dieu, de l'Écriture, parole de Dieu. Mais la Réformation a manqué son but essentiel, qui était la réforme de l'Église. Et les réformateurs et leurs disciples n'ont pas manqué ce but par leur seule faute. Je crois même pouvoir dire qu'historiquement, la faute n'a pas été principalement de leur côté. La Réformation s'est heurtée à un refus, à une opposition de la part des papes et de la part d'une grande partie du clergé romain. Mais il ne faut pas oublier que sa fameuse lettre ou son fameux traité sur la liberté chrétienne, Luther l'a dédié au pape Léon X. Et si Luther a dédié ce traité au pape Léon X, c'était avec l'espoir que le pape prendrait à cœur la réformation de l'Église et voudrait la réformation de l'Église et provoquerait ou accélérerait la réformation de l'Église, en particulier en convoquant un concile. Et Calvin, tout au long de sa vie s'est démené autant qu'il l'a pu pour l'unité de l'Église. Il a voulu l'unité de l'Église. Il l'a recherchée passionnément. Il aurait traversé 10 mers, écrit-il, pour aider à cette unité de l'Église. Mais il faut le reconnaître, il faut le constater, la Réformation a échoué. A échoué. Bien entendu, il y a des pays où la Réformation semble avoir réussi, avoir été une réformation de l'Église. Je pense en particulier aux pays scandinaves, où tous les diocèses, évêques en tête, et tout le clergé ont pris la tête du mouvement de la Réformation. Mais il faut tout de suite préciser que ça n'était quand même pas une vraie réformation de l'Église, puisque d'une certaine manière cela aboutissait à diviser l'Église ou la chrétienté en Église nationale. Et en Église nationale, dominée ou dirigée par les princes, ce qui est aussi, du point de vue du Nouveau Testament, une monstruosité. On ne voit pas comment on pourrait justifier, selon la Bible, l'existence d'Église nationale. Et cependant, nous tous qui sommes ici, ou la plupart d'entre nous, je suppose, nous faisons partie d'une Église nationale. Et on ne voit pas non plus comment on peut justifier par la Bible, par le Nouveau Testament, que les princes ou l'État peuvent avoir autorité dans l'Église. Donc, les Églises scandinaves ou l'Église d'Angleterre, même si d'une certaine manière cela semble une réussite de la réformation de l'Église, ça n'est pas une vraie réformation de l'Église. Et, je répète, la réformation du XVIe siècle a échoué dans cette mission qu'elle s'était donnée, reformer l'Église chrétienne selon la parole de Dieu. Et cet échec, nous en portons la peine, la souffrance, et nous en portons aussi les conséquences, toutes sortes de conséquences. Et c'est pourquoi il serait très important de redéfinir, non seulement en théorie, mais en acte, ce que pourrait être, en ce XXe siècle où nous sommes, un renouveau ou une reprise du mouvement de réformation de l'Église. Voilà pourquoi les articles de la Confession de foi nous introduisent sur un terrain mouvant. Vous allez le voir tout au long, d'ailleurs, de ces articles. Il y a une assurance concernant l'Église. Il y a une sorte d'exaltation même de l'Église, dans un bon sens, tout au long de ces articles, et en même temps, on sent au détour de ces articles ou au détour des phrases qui les composent, on sent qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que ce quelque chose qui ne colle pas, ce quelque chose qui ne va pas, vient justement de ce que la Réformation a échoué. Et en particulier, elle avait échoué dans notre pays de France. Puisque les églises réformées avaient dû être dressées en dehors et à côté de ce qui avait été jusqu'à présent les églises de France. Il y a eu des églises à côté d'autres églises. Dans certains pays, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les églises dans le pays en question qui ont été réformés. Mais en France, les églises réformées ont dû se dresser aux côtés des autres. Et là, il y a quelque chose, en effet, qui ne va pas, qui ne colle pas. Ce qui est important, évidemment, c'est que les réformateurs, et en particulier nos pères des églises en France, des églises réformées en France, ont gardé malgré tout le sens de l'Église, l'ont beaucoup plus gardé que les protestants au cours des 18e, 19e et 20e siècles. Il y avait un sens de l'Église. À plusieurs reprises, vous avez vu, revient l'expression « l'ordre de l'Église ». Et que l'on ne peut pas avoir sa religion à l'écart, ou se contenter de sa personne, ou faire bande à part. Vous avez vu cette expression. Il y a un sens de l'Église que beaucoup de protestants ont perdu depuis. Et ce sens de l'Église, les pasteurs y jouent un rôle en ce double sens qu'ils ont comme mission d'annoncer fidèlement, d'enseigner fidèlement la parole de Dieu, de donner les sacrements de Dieu et surtout de maintenir l'unité locale des chrétiens. C'est important de voir que pour notre confession de foi, il y a au fond un triple rôle du ministère pastoral: enseignement de la parole de Dieu, administration des sacrements, maintien de l'unité. Maintien de l'unité. Et chacun de ces points est évidemment essentiel. C'est ici d'ailleurs que nous devons saisir que si la confession de foi affirme ces choses, c'est à cause de ce que dit le Christ dans l'Évangile. C'est un ordre de l'Église établi par l'autorité du Christ qui doit être sacré et inviolable parce que Jésus-Christ l'a voulu ainsi. Et ce sens de l'Église, ce sens de l'unité, de la communion de l'Église, nos pères l'avaient, même si, je m'excuse de le répéter, ils ont échoué quant à la réformation de l'Église. On ne peut pas se tenir à l'écart, se contenter de sa personne, et l'esprit de division, l'esprit sectaire, l'esprit de dissension est évidemment contraire à tout l'enseignement de la Bible. Dans la Bible, il y a le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a l'Église dans le Nouveau Testament, et le peuple de Dieu est un et l'Église est une. Et faisons bien attention, dans la Bible, il n'est jamais question d'un peuple de Dieu invisible ou d'une Église invisible. Il est question d'un peuple de Dieu visible qui s'appelait le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et d'un peuple de Dieu visible qui s'appelle l'Église dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il y a un aspect invisible de l'Église de Dieu. Et toutes les confessions de foi de la Réforme parlent d'une façon ou d'une autre de cet aspect invisible de l'Église de Dieu. Mais l'Église de Dieu est le corps de Christ. Et si l'apôtre Paul a employé ce mot corps, c'est pour éviter toute fuite dans l'invisibilité. Non, l'Église est un peuple visible de Dieu. Il n'est pas que cela, mais il est cela, peuple visible de Dieu. Et les pasteurs doivent veiller à cette unité locale du peuple de Dieu. Parce que l'Église locale n'est pas un segment, un fragment, un morceau de l'Église, corps de Christ, mais elle est la visibilisation de l'Église, corps de Christ, en un lieu donné. C'est très important cela, parce que si nous nous mettons dans l'arithmétique, on arrive à des choses étonnantes en ce qui concerne l'Église. On pourrait dire que si l'Église est composée de l'ensemble des églises locales, cependant chaque église locale est l'Église. On arrive donc à 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, et en nombre très grand, égale 1. Et c'est ça que nous avons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a l'Église, corps de Christ, et il y a l'Église locale qui est aussi le corps de Christ. Et à l'Église locale, il ne manque rien. Il ne manque rien, puisqu'elle a la parole de Dieu, puisqu'elle a les sacrements de Dieu, puisqu'elle a la foi et la mission de l'Église à accomplir. Si bien qu'on peut dire que, selon le Nouveau Testament, chaque Église locale est l'Église. Ce n'est pas un morceau d'Église, ce n'est pas un fragment d'Église, c'est l'Église. Et d'ailleurs, Paul dit l'Église qui est à Rome, ou l'Église qui est à Corinthe, ou l'Église qui est à Philippe. Mais il dit l'Église. Et c'est très important pour notre vie, cela. Parce que nous tendons souvent à voir les choses pour l'Église comme on les voit pour l'État. Alors on dit, par exemple, que la France est composée de 89 départements, et puis que chaque département est composé de tant de cantons, et que chaque canton comporte tant de communes, et alors plusieurs communes ensemble, ça fait un canton, plusieurs cantons ensemble, un département, et l'ensemble des départements forment la France. Et nous tendons à calquer la vie de l'Église sur la vie administrative de l'État. Mais ça n'a rien à voir. C'est pour ça que l'expression que nous employons, par exemple, l'Église réformée de France, ça n'a aucun sens du point de vue biblique. Ça n'existe pas, l'Église réformée de France. Il y a les églises locales, chacune étant l'Église de Dieu à tel endroit, et puis il y a l'Église, corps du Christ, qui n'est pas composée de la somme des églises particulières, mais qui se trouve manifestée en chaque église particulière, et se trouve manifestée pleinement en chaque église particulière. Et c'est pour ça que jamais la confession de foi ne parle de l'Église réformée de France. D'ailleurs, on l'a très bien intitulée la confession de foi des églises réformées en France. Et de même, on ne peut pas parler d'église régionale, d'église nationale. Nous parlons tout le temps d'église régionale, d'église nationale, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que justement, qu'est-ce que c'est que l'église? C'est quelque chose de très visible. C'est l'ensemble des croyants qui, en un lieu donné, partagent la même parole de Dieu, le même pain et la même coupe. Ça, c'est l'Église. Et c'est l'Église au plein sens du mot. Il suffit d'ailleurs de se poser la question, qu'est-ce qui manque ? Il ne manque rien. Et les églises locales sont en communion les unes avec les autres, non pas du tout sur le plan horizontal, comme tend à le faire croire l'administration de l'Église, mais parce que, verticalement, si j'ose dire, elles sont chacune une expression de l'unique corps du Christ. Si bien que la communion des églises entre elles, c'est fondamentalement la communion au Christ, la communion dans le Christ. Bien sûr, il a existé tout de suite, et c'est nécessaire, des synodes provinciaux, des synodes nationaux, mais je dirais que dans la mesure où ces synodes régionaux, ces synodes nationaux confisquent pour eux ou en eux quelque chose de la vie de l'Église, il y a un redoutable danger. Et d'ailleurs, nous nous trouvons dans une situation incroyable à l'heure actuelle, puisque il existe au fond dans le protestantisme que des églises d'ordre national. Et quand on dit, par exemple, que l'autorité suprême pour les protestants français réformés, c'est le synode national, c'est proprement quelque chose d'aberrant. Et c'est très grave parce qu'évidemment, alors, cela veut dire que nous pouvons trancher de questions importantes, capitales, essentielles, dans l'ordre national, sans nous préoccuper de ce qui se fait ailleurs et fonctionner, si j'ose dire, d'une manière autonome. Et là, c'est un des grands problèmes posés aux églises de notre temps. Et là, voyez, nous nous trouvons dans la contradiction déjà au XVIe siècle, puisque avec ce que dit très justement la confession de foi à propos de l'Église, c'est cependant une confession de foi qui est seulement celle des églises réformées en France. Et Calvin, d'ailleurs, le sentait tellement bien qu'il a fait tous ses efforts pour qu'on arrive à une confession de foi de toutes les églises réformées. Et non seulement des églises réformées au sens strict, mais il le voulait aussi avec les églises luthériennes. Et il s'est efforcé d'établir un lien. Et alors, dans notre pays de France, aujourd'hui, nous sommes dans une situation dramatique parce que il y a d'une part l'Église romaine avec les dogmes qu'elle a définis et dont un certain nombre sont en contradiction flagrante avec l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis, il y a plusieurs églises protestantes dans la même ville ou dans le même endroit. Il y a même certains gros villages ou petites villes de France où il y a 3-4 églises protestantes. Et on peut alors vraiment se poser la question, mais où est l'enseignement du Nouveau Testament dans tout ça? Et ce qui est grave, c'est que aucune église ne peut dire « Ah, mais chez moi, ça colle ». L'église romaine ne peut pas dire « ça colle », d'ailleurs, elle s'en rend bien compte ces temps-ci. Et ça ne colle pas parce que, justement, il y a trop de choses qui n'ont rien à voir avec le commandement ou la révélation de la parole de Dieu. Et puis alors, les églises protestantes sont là, avec ce souci de l'Église, ce désir de l'Église, cette affirmation de l'unité de l'Église, et tout cela vécu dans des divisions, dans des oppositions, et on ne voit pas d'ailleurs comment en sortir, et d'ailleurs je ne pense pas qu'il soit dans les possibilités des hommes et des chrétiens et des églises d'en sortir. Il faut vraiment que nous demandions un mouvement de l'Esprit Saint de Dieu, une action de l'Esprit Saint de Dieu, parce qu'il semble qu'il y a comme un blocage avec, bien entendu, la difficulté supplémentaire que, bien souvent, le désir de l'unité de l'Église ne fait qu'accroître la désunion. Article 27. Nous croyons toutefois qu'il convient de discerner soigneusement et avec clairvoyance quelle est l'Église véritable. Là, il faudrait dire, car c'était ça dans le sens du texte, ce qu'est l'Église véritable, parce qu'on abuse par trop de ce titre. Selon la parole de Dieu, nous disons donc que l'Église véritable est la communauté des fidèles qui, d'un commun accord, veulent suivre cette parole et la pure religion qui en dépend, qui en font leur profit tout au long de leur vie, grandissant et se fortifiant sans cesse dans la crainte de Dieu, selon qu'il leur est nécessaire de progresser et de marcher toujours plus avant. Au surplus, quels que soient leurs efforts, il leur faut avoir assidûment recours à la rémission de leurs péchés. Néanmoins, nous ne nions pas que parmi les fidèles, il y ait des hypocrites et des réprouvés dont la malignité ne peut cependant priver l'Église de son titre légitime. Fondée sur cette définition de l'Église véritable, nous affirmons que là où la parole de Dieu n'est pas reçue, et où l'on ne se met nullement en peine de s'y soumettre, et là où il n'est fait aucun usage authentique des sacrements, on ne peut estimer qu'il y ait quelque Église. C'est pourquoi nous condamnons les assemblées de la papauté, parce que la pure vérité de Dieu en est bannie, que les sacrements y sont corrompus, altérés, falsifiés ou totalement anéantis, et que toutes sortes de superstitions et d'idolâtrie y ont la vogue. Nous estimons donc que tous ceux qui se joignent à de tels actes et y participent se séparent et se retranchent du corps de Jésus-Christ. Toutefois, parce qu'il reste encore quelques petites traces d'Église dans la papauté, et qu'en outre la réalité essentielle du baptême y a subsisté, jointe au fait que l'efficacité du baptême ne dépend pas de celui qui l'administre, nous confessons que ceux qui y sont baptisés n'ont pas besoin d'un second baptême. Cependant, à cause des corruptions qui se trouvent dans la papauté, on ne peut sans se souiller y présenter les enfants au baptême. Vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure apparaît encore plus évidemment dans ces deux articles 27 et 28. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que l'Église véritable, telle qu'elle est définie dans l'article 27, et malgré la petite correction qui apporte le « nous ne nions pas que parmi les fidèles, il y ait des hypocrites et des réprouvés dont la malignité ne peut cependant priver l'Église de son titre légitime », je dirais, cet article 27 décrit une Église idéale. Une Église idéale. Reprenons, et vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est l'Église véritable et la communauté des fidèles qui, d'un commun accord, veulent suivre cette parole et la pure religion qui en dépend. Encore dans le « veulent suivre », nous sommes dans le domaine des intentions, ça peut aller. Mais ensuite, qui en font leur profit tout au long de leur vie? Qui oserait dire et pourrait dire que tout au long de sa vie, il en fait son profit? de la parole de Dieu et de la pure religion qui en dépend. Grandissant et se fortifiant sans cesse dans la crainte de Dieu. Eh bien, je dis que c'est la description d'une Église idéale. Si la réformation avait été vraiment la réformation, si on l'avait laissé être la réformation, si on ne s'était pas opposé du côté de Rome à la réformation, il y aurait eu réformation de l'Église. Or, on n'a pas eu réformation de l'Église, on a eu division de l'Église. Et division de l'Église appelant de soi d'autres divisions. Et on ne peut pas dire que les protestants sont les responsables de ces divisions, parce que la division, elle était aussi dans le fait d'une Église refusant la réformation. Si bien que les protestants ont leur part dans le développement historique qui s'est produit depuis le XVIe siècle et qui est allé vers un pullulement d'Église, et nous devons le confesser et le reconnaître, mais l'Église romaine a sa part, et elle a eu sa part au moment où, au XVIe siècle, par son pape, par ses papes, elle a refusé la réformation, elle a refusé le concile. Je dirais que ce qui se passe en ce moment vient avec beaucoup de retard, mais je dirais que cela pose pour nous en même temps la nécessité d'une redécouverte de la réformation de l'Église. Et donc une redécouverte de ce que c'est que l'Église. Et je crois que le Concile, même s'il n'accouche au bout du compte que d'une ou deux souris, malgré tout, le Concile a contribué à créer non seulement chez les catholiques romains, mais chez les protestants, le souci de deux choses qui n'auraient jamais dû être séparées, la réformation et l'Église. Nous, nous sommes partis avec la réformation, et nous avons perdu le sens de l'Église. Ils ont gardé le sens de l'Église. Et ils ont perdu le sens de la réformation. Peut-être commençons-nous à voir et à saisir d'un côté et de l'autre qu'il faut les deux et que l'Église doit toujours se réformer selon la parole de Dieu, mais que l'Église ne peut se réformer qu'en restant l'Église. Et que dans une certaine continuité de l'Église, et que dans une certaine tradition de l'Église, à nous, protestants, d'attester la vérité de la parole de Dieu et la nécessité de la réformation, mais je dirais d'adjoindre un sens plus grand de l'Église à tout cela, et je dirais à nos frères catholiques romains, sans doute, de voir que l'Église ne doit pas rester dans une sorte d'immobilité tragique, qu'elle ne doit pas non plus se mettre au goût du jour, mais qu'elle doit se vouloir et se chercher réformer selon la parole de Dieu. Voyez-vous, autant je me suis senti dans la ligne de la confession de foi, là, jusqu'à ce que nous arrivions à l'Église, autant maintenant, je m'aperçois que ça ne va plus. Ça ne va plus, non pas du tout parce que ce qui nous serait dit dans la confession de foi serait faux, mais parce que ce qui est dit dans la confession de foi ne correspond pas à la réalité, mais c'est un idéal. Et un idéal qui est dressé en face, il faut bien le dire, d'une caricature. Parce que la papauté, au XVIe siècle,
était quelque chose d'assez étrange, et on peut même dire, car même les catholiques romains sont d'accord, d'assez horrible. Mais est-ce qu'on peut dire que les assemblées de la papauté
c'était des assemblées où la pure vérité de Dieu était bannie?
D'ailleurs, il y a une contradiction. On dit que les sacrements, ils sont corrompus, altérés, falsifiés ou totalement anéantis. Et un peu plus loin, on dit, en outre, la réalité essentielle du baptême y a subsisté.
Ah, ça me plonge dans un abîme de réflexion. Parce que ça ne va pas. Ou c'est l'un ou c'est l'autre, mais on ne peut pas dire que la réalité essentielle du baptême a subsisté dans les assemblées de la papauté et dire que les sacrements y sont corrompus, altérés, falsifiés ou totalement anéantis. Il y a là aussi une outrance. Je dirais, on vient d'ériger le tableau de l'Église idéale et alors on montre une des assemblées de la papauté où tout est corrompu. Or, vraiment, quand on va vers tout ce qui nous reste, vers les documents, et les documents, c'est beaucoup de choses. Dans les documents, moi je mets les cathédrales. Dans les documents, je mets aussi des œuvres mystiques et évangéliques comme il en est apparu, et encore au XIVe, au XVe, et au début du XVIe siècle. Moi, je crois que cette peinture de la papauté est outrée. Et vous le savez, je suis réformé à fond, je veux dire, de doctrine. Je suis tout ce qu'il y a de plus calviniste. Mais je dirais que si nous continuions à voir la papauté, même la papauté du XVIe siècle, sous les traits de la confession de foi, et encore plus alors si nous pensions à celle d'aujourd'hui, je crois, nous ne serions pas véridiques. Pour ne parler que d'une chose de quoi il m'a été donné de m'approcher ces dernières années, c'est une œuvre que bien souvent les protestants, et d'ailleurs les catholiques aussi, méconnaissent, parce qu'il y a toute une sorte de bondieuserie et toutes sortes de superstitions et puis tout un commerce qui s'est érigé autour. Mais j'ai lu et vraiment essayé de lire sérieusement l'œuvre de Thérèse de Lisieux. Eh bien, je dirais que moi j'y ai beaucoup appris. Et beaucoup appris de ce que dit la Bible. Et de ce que dit la Bible sur la vie spirituelle du chrétien. Or, bien sûr, il y a toutes les petites Thérèse de Lisieux en plâtre, il y a tout ce que je disais tout à l'heure. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire. En pensant aux assemblées de la papauté, que ça n'est que superstition et idolâtrie. Et non plus séparé et retranché du corps de Jésus-Christ, les fidèles qui s'y trouvent. D'ailleurs, la confession de foi sur ce point n'est pas du tout conforme à ce que Calvin dit dans l'institution chrétienne, et je dirais aussi à la manière, heureusement d'ailleurs, dont les protestants du XVIe siècle, y compris les pasteurs, ont traité ou dialogué, comme on dit aujourd'hui, avec leurs frères catholiques romains. Et je crois que dans la mesure où on prend, où on reprendrait cette position purement polémique, on n'avancerait pas plus les affaires, d'ailleurs, des catholiques romains que les nôtres. Et je crois qu'autant nous avons à être fermes sur tous les articles de foi qui précèdent. et qui sont d'aplomb sur la parole de Dieu, autant je dirais, c'est à partir de ce qui est dit de l'Église que ça ne va plus. Et vous verrez la prochaine fois, quand nous parlerons du baptême, et de la Sainte Cène, à propos des sacrements, à nouveau, on retrouve vraiment l'enseignement de la Bible. Ça marche de nouveau. Mais c'est sur ce point de l'Église que je crois devoir faire les réserves que je viens de faire. Quant à l'Église véritable, nous croyons qu'elle doit être gouvernée selon l'ordre établi par notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir qu'il y ait des pasteurs, des surveillants, c'est-à-dire des évêques. N'est-ce pas, souvenez-vous que « épiskopoi » en grec, d'où vient notre mot « évêque », ça veut dire « surveillant ». Des surveillants et des diacres, afin que la pureté de la doctrine y soit maintenue, que les vices y soient corrigés et réprimés, que les pauvres et tous les affligés soient secourus dans leurs besoins, et que les assemblées se tiennent au nom de Dieu, et que les adultes y soient édifiés, de même que les enfants. Là-dessus, il n'y a pas grande remarque à faire. Nous croyons que tous les vrais pasteurs, en quelque lieu qu'ils soient, ont la même autorité, une égale puissance, sous un seul chef, un seul souverain et seul évêque universel, Jésus-Christ. Pour cette raison, nous croyons qu'aucune église ne peut prétendre sur aucun autre, je pense que c'est sur aucune autre, à quelque domination ou quelque souveraineté que ce soit. Alors là, ça tient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que chaque église locale, selon le Nouveau Testament, c'est la plénitude du corps de Christ en ce lieu. Donc, il ne peut pas y avoir d'inégalité, puisque chaque église est vraiment le corps du Christ en ce lieu, et l'église en ce lieu. Donc, à partir du moment où il y aurait suprématie d'une église sur une autre, ce serait une manière de dire que telle église serait plus ou mieux, ou davantage le corps du Christ qu'une autre. Non, je crois que c'est juste, en effet, de dire que toutes les églises sont égales, et d'ailleurs, vous savez que c'est un des grands principes de nos frères orthodoxes d'Orient, et je crois que c'est une chose que nous avons à tenir en commun avec eux, parce que nous avons beaucoup parlé tout à l'heure de l'Église romaine, mais enfin il ne faut pas oublier que dans l'ensemble de la chrétienté, il y a aussi ces églises orthodoxes d'Orient qui, sur bien des points, ont des choses sur lesquelles nous avons à nous opposer, mais où il y a aussi des choses dont nous avons à nous souvenir. Et là, il y a un point très important, à savoir que dans l'Église orthodoxe d'Orient, on a toujours bien vu dans chaque Église la plénitude du corps du Christ, et on a bien vu qu'il y avait égalité entre les Églises. Et donc, je crois que là, ces deux articles que je viens de lire sont bien d'aplomb. Il suffit d'ailleurs de voir les textes qui sont cités pour voir qu'on est selon la parole de Dieu. Nous croyons que nul ne peut prétendre de sa propre autorité à une charge ecclésiastique, mais que cela doit se faire par élection, c'est-à-dire par choix. C'est pas élection au sens moderne du mot. Autant qu'il est possible et que Dieu le permet. Nous ajoutons cette restriction, en particulier parce qu'il a été parfois nécessaire, et même de notre temps où il n'existait plus d'église véritable, que Dieu suscita des hommes d'une façon extraordinaire pour dresser de nouveau l'église qui était dans la ruine et la désolation. Alors là, nous avons affaire à quelque chose que je crois tout à fait biblique, c'est-à-dire que il y a toujours eu l'évocation que j'appellerai ordinaire, c'est-à-dire, non pas ordinaire au sens péjoratif du mot, mais l'évocation selon l'ordre normal, et puis l'évocation extraordinaire de Dieu. Dieu a toujours suscité, au cours de l'histoire d'Israël, ou au cours de l'histoire de l'Église, quand il l'a fallu, des hommes ou des femmes pour redresser une situation. Je crois que reconnaître qu'il y a des charismes extraordinaires à côté
des institutions ordinaires de l'Église, c'est très nécessaire. D'ailleurs, même aujourd'hui, des églises, les églises d'Orient l'ont toujours reconnu, et même aujourd'hui, l'Église catholique romaine reconnaît que c'est juste. Je ne crois pas qu'aujourd'hui cela puisse faire grand débat. En tout cas, l'essentiel, c'est que nul ne doit prétendre de sa propre autorité un charge ecclésiastique. Évidemment, on peut discuter un peu sur le mot « nul ne peut », parce que les prétentions des clercs à certaines charges ecclésiastiques ont toujours existé, et hélas, existeront toujours. Les pasteurs sont des chrétiens avec leurs défauts, et lorsqu'ils prétendent à certaines charges ecclésiastiques, ils y prétendent, hélas, quelquefois. Donc je crois qu'il vaudrait mieux, mais nous ne croyons que nul ne doit prétendre de sa propre autorité, parce que quant à pouvoir prétendre, hélas, le cas a existé tout au long de l'histoire. Mais normalement, on ne doit pas et il ne faut pas s'instituer de sa propre autorité. La vocation doit venir de Dieu et elle doit être confirmée par l'Église. Et là, nous devons nous rappeler de l'importance de ce que dit cet article 31, parce que trop souvent dans l'histoire de l'Église, il y a eu comme ça prétention à vocation. D'ailleurs, nous avons un test. Dans l'Écriture sainte, je suis frappé de voir que il y a eu abondance de faux prophètes, c'est-à-dire d'hommes qui se prétendaient prophètes et qui voulaient prétendre de leur propre autorité à cette charge. Mais les vrais prophètes, ce sont toujours des hommes qui ne voulaient pas, qui se reconnaissaient indignes, ça tracassait et qui s'opposaient. Vous pouvez prendre tous les prophètes, quand ils ont été appelés par Dieu, ils ont tous commencé par dire « Mais qui suis-je, Seigneur, et comment parlerai-je, et comment pourrai-je, et je ne suis qu'un homme dont les lèvres sont souillées, et voilà. » Ce qu'il y a de curieux, c'est de voir que les vrais prophètes, au fond, redoutent leur vocation. Tandis que les faux prophètes, alors eux, au contraire, alors non seulement ils la redoutent pas, mais ils en prendraient un peu plus. Et c'est un signe caractéristique. Dans l'Écriture sainte, on voit ça tout au long. Et au fond, je pense que l'épreuve de la vocation, c'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose. Voyez-vous, je crois qu'il faut prier pour les vocations, c'est d'ailleurs l'ordre de Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il faut prier pour les vocations, il faut dans certains cas les encourager, mais je dirais que dans la plupart des cas, c'est bon que les vocations soient mises à l'épreuve. Bien sûr, il ne faut pas jouer non plus à les décourager, mais je dirais il faut qu'une vocation se heurte à des difficultés. Et il faut en tout cas qu'elle passe comme un fer doit passer à l'épreuve du feu. N'est-ce pas ? Il faut veiller à ça. Et d'ailleurs, la vocation, c'est quelque chose devant quoi un homme doit être tremblant. Et c'est pour ça que la confession de foi fait bien de bien souligner que nul ne peut prétendre de sa propre autorité à une charge dans le peuple de Dieu. Mais quoi qu'il en soit, nous croyons qu'il faut toujours se conformer à cette règle, que tous, pasteurs, surveillants et diacres, soient assurés d'être appelés par Dieu à leur charge, et ils sont assurés de leur vocation par l'appel de l'Église. C'est pourquoi je ne crois pas qu'il ait été juste, c'est un rajout qu'on a fait, de mettre en titre la vocation intérieure. N'est-ce pas ? C'est pas très juste d'avoir mis la vocation intérieure en titre. Ça n'est pas dans la confession de foi. En réalité, on est assuré d'être appelé par Dieu quand à la vocation intérieure correspond la vocation ecclésiale. Quand à la vocation que l'on entend en soi correspond l'appel que l'on reçoit de l'Église. Et je crois que le sens de ce paragraphe, c'est que, une fois que l'Église a consacré un pasteur, un surveillant, un diacre, un pasteur, un ancien, un diacre, eh bien, il doit être confirmé dans l'appel de sa vocation extérieure. Il doit être assuré de son appel intérieur. C'est, si vous voulez, comme une authentification, comme un sceau posé sur son appel intérieur. C'est pourquoi c'est très important, voyez-vous, parce que ça arrive, au fond, un pasteur, quelquefois, peut non pas douter de sa vocation, mais il peut se poser des questions sur est-ce que c'est bien juste, est-ce que je suis vraiment dans le chemin qui est le chemin de Dieu pour moi. Eh bien, l'assurance du pasteur, il la trouve dans sa consécration. Voilà. Ce qui fait que je suis rassuré quand je suis un petit peu comme ça, c'est que l'Église m'a donné la consécration. J'ai été consacré. Alors, c'est comme ça que je suis assuré de ma vocation. Parce que la vocation intérieure, forcément, c'est quelque chose qui peut vaciller quelquefois, ou qui risque en tout cas de vaciller, ou qui est tenté de vaciller. Et bien sûr, on ne peut devenir pasteur que si Dieu y appelle intérieurement, mais je dirais, c'est le sceau que pose l'Église par l'ordination, par la consécration, c'est ce sceau qui donne vraiment l'assurance. Alors là, parce qu'alors à ce moment-là, on n'est plus ramené à soi, mais on est ramené à ce que l'Église finalement a fait, à un acte qui a été posé sur soi, et à quelque chose qui est donc objectif, qui n'est plus subjectif, à quelque chose là qui est ferme et à cause. Exactement de même que quand on est un peu à se demander est-ce que vraiment j'ai la foi, est-ce que j'ai assez de foi, est-ce que je... Non, on doit s'assurer en son baptême et en la Sainte Cène. Et on doit trouver dans son baptême et dans la communion et dans la célébration eucharistique, c'est là où on doit trouver son certitude. Autrement dit, il faut nous méfier de ce qui ne serait qu'intérieur, parce que souvent, justement, on risque d'être tenté de douter alors, et il faut nous assurer dans les sceaux, dans les signes, dans les choses que Dieu nous donne, justement pour nous assurer. Pourquoi sommes-nous baptisés ? Parce que Dieu veut que nous sachions que nous sommes ses enfants. Et bien sûr, seule la foi peut reconnaître le sceau du baptême. Il ne peut pas y avoir une assurance sur le baptême en dehors de la foi. Mais je dirais, notre foi a besoin de l'appui du baptême. Notre foi a besoin de savoir que nous sommes en communion avec Jésus-Christ en prenant le pain et le vin eucharistique. Et nous avons besoin, quand nous sommes pasteurs, de savoir que nous sommes dans notre charge de pasteur parce que nous avons été consacrés. Et je crois qu'il faut que nous appuyions. D'ailleurs, Calvin, dans l'Institution chrétienne, montre très bien quel est le rôle et la nécessité de ces réalités visibles, de ces béquilles, de ces appuis, de ces soutiens, de ces sceaux pour notre vie spirituelle. Nous croyons aussi qu'il est bon et utile que ceux qui sont choisis pour être surintendants cherchent ensemble les moyens qu'ils doivent mettre en œuvre pour diriger et administrer tout le corps de l'Église. Toutefois, qu'ils ne s'écartent en rien de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a ordonné sur ce point. Pas de remarque ici. La seule chose que je signale, comme une note d'ailleurs en fin de la confession de foi le montre, c'est que les surintendants ici, ce ne sont pas d'autres personnages. Les surintendants, ce sont l'ensemble de ceux qui dirigent et administrent tout le corps de l'Église. c'est-à-dire c'est l'ensemble des pasteurs, des conseils presbytéraux, c'est l'ensemble des délégués, députés dans les synodes, c'est tous ceux qui ont une charge ecclésiastique. Cependant, nous rejetons toutes les inventions humaines et toutes les lois qu'on voudrait introduire sous prétexte de servir Dieu et par lesquelles on voudrait lier les consciences. Ce qui est important à souligner dans cette phrase, c'est « par lesquelles on voudrait lier les consciences ». Faisons bien attention, parce que toute invention humaine et toute loi qu'on voudrait introduire sous prétexte de servir Dieu... Il y a forcément des inventions humaines. Je veux dire, on ne peut pas vivre sans invention humaine. Même là où l'on entend suivre la parole de Dieu, on est bien obligé de prendre des dispositions. Enfin, je prends un exemple. Le culte est à 10h30. Ben, c'est une invention humaine. Bon, mais de même pour un tas d'autres choses, l'Église est bien obligée, pour le bon ordre, d'inventer, je dirais, à chaque siècle. Mais elle ne doit jamais inventer ce qui lierait les consciences. C'est-à-dire que sur le plan de la doctrine, sur le plan de la vie chrétienne, c'est-à-dire que sur le plan des dogmes ou des commandements moraux, l'Église n'a rien le droit d'inventer. Vous savez que les commandements moraux, en particulier les pharisiens, avaient réussi à par exemple, le sabbat, le commandement du sabbat avait été complètement transformé par les pharisiens. Et de même, bien souvent, les commandements de Dieu, comme ça, peuvent être soit majorés, soit minimisés, soit arrangés dans un sens ou dans un autre par l'Église pour lier les consciences. Eh bien non. C'est au point de vue de la vie chrétienne, de la morale chrétienne, seule la parole de Dieu peut lier les consciences. De même au point de vue de la doctrine, au point de vue de la foi. Pas l'Église ne peut pas prononcer des dogmes en dehors de ce que dit la parole de Dieu. Et l'Église, donc, ne peut pas proposer une doctrine qui lierait les consciences. Alors, c'est le sens de cette phrase. Il ne faut pas pousser ça au point de dire qu'il faut rejeter toutes les inventions humaines, parce qu'au contraire, l'Église a besoin sans cesse d'inventions humaines pour continuer à vivre. De même, toutes les lois, les règlements, je dirais, on est obligé d'avoir une discipline, on est obligé d'édicter des règles, mais on n'a pas le droit... sur le plan doctrinal et moral, de lier les consciences par des dogmes ou des commandements qui ne soient pas de Dieu, de la parole de Dieu. Nous n'approuvons que ce qui contribue à établir la concorde et est propre à l'entretenir et à maintenir chacun du premier au dernier dans l'obéissance. L'obéissance dont il s'agit là, bien sûr, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Nous devons donc suivre sur ce point ce que notre Seigneur a déclaré quant à l'excommunication que nous approuvons et confessons être avec toutes ses conséquences. Alors là, nous nous trouvons devant une réalité scripturaire qui est celle de l'excommunication, c'est-à-dire qu'il y a des cas où c'est précisé d'ailleurs dans le Nouveau Testament, tant dans les évangiles que dans les épîtres, il y a des cas où l'Église doit... excommunier. Mais les cas où l'Église doit excommunier, ce sont toujours des cas où l'Église ne doit pas agir pour prendre la place de Dieu et pour prononcer une sorte de malédiction, mais c'est toujours comme un avertissement. L'excommunication, c'est comme l'avertissement le plus sérieux, le plus grave que l'Église puisse donner dans certains cas à des hommes qui vraiment, je dirais, introduisent dans l'Église le scandale ou la division. Et là, je crois que nos Églises n'ont pas toujours su... être dans la vérité de la parole de Dieu à ce sujet. Je dirais qu'aujourd'hui, certainement, par prudence humaine, par respect quelquefois de certaines positions sociales, l'Église n'ose pas
excommunié. Et inversement, quelquefois, l'Église, alors, n'est pas assez maternelle. L'Église est trop dure et l'Église prend une position qui n'aide pas, qui ne vient pas au secours. Et vous voyez, là, il y aurait beaucoup à dire sur le rôle maternel de l'Église, mais si vous voulez, je réserverai toute cette question très importante et au sujet de laquelle, d'ailleurs, j'ai reçu une lettre intéressante de l'une d'entre vous. Je garderai pour la prochaine fois toute cette question du rôle maternel de l'Église. J'en parlerai en parlant des sacrements. Thank you.